bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté de discuter avec nous sur la vie sensorielle et la vie spirituelle. Quels sont les liens entre les sens et la vie spirituelle? Nous attaquons donc notre deuxième entretien et aujourd'hui nous allons parler de la vue. Et donc sur la vue, moi ma première réaction, ça a été de me dire « Paul de Tarse s'est converti en perdant la vue et en la retrouvant ».
Oui, c'est un bon raccourci en effet. Ça peut fournir le schéma de notre réunion ce soir. Nous allons d'abord probablement parler de la nécessité de perdre la vue, de fermer les yeux pour entrer dans l'expérience spirituelle. Et à la fin, nous découvrirons que l'expérience spirituelle nous invite à ouvrir les yeux, mais autrement. Mais dans un premier moment, c'est vrai, tous les sages et tous les mystiques nous disent si vous voulez entrer dans votre intérieur, si vous voulez entrer dans la vie spirituelle, il faut commencer par fermer les écoutilles de l'âme. Il faut fermer les yeux, parce que les yeux sont une source de distraction et que la vie spirituelle, ça commence par entrer en soi-même. Les représentations du Bouddha le présentent toutes avec les yeux, sinon complètement fermés, du moins les yeux baissés. Et c'est vrai que dans l'ensemble des traditions culturelles, les réalités spirituelles échappent au regard, au spectaculaire. Elles sont de l'ordre de l'intérieur, de l'intime, du secret. Et chez nous, quelqu'un comme Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince, a écrit cette phrase qui est très célèbre « On ne voit bien qu'avec le cœur ». L'essentiel est invisible aux yeux.
Mais ce n'est pas naturel de fermer les yeux. Un enfant, un petit enfant, a peur du noir, a peur de fermer les yeux, a peur de la nuit.
Non, mais vous avez raison. L'enfant commence par prendre connaissance de lui-même par la vue, par le toucher, je crois. Mais enfin, bon, peu importe. Mais en même temps, vous pouvez difficilement nier que lorsque vous voulez entrer en relation profonde avec le monde extérieur, par exemple lorsque vous voulez écouter de la musique, vous fermez les yeux. Lorsque vous respirez une rose, instinctivement, vous fermez les yeux. Lorsque vous mangez un morceau de gâteau délicieux, vous fermez les yeux. Et lorsque vous réfléchissez, lorsque vous voulez penser, lorsque vous voulez méditer, vous fermez les yeux. Croyez pas ?
Je suis d'accord que pour méditer, souvent, il faut fermer les yeux. Ça permet en fait d'accéder à une forme d'intériorité. Mais pour moi, les yeux fermés, ça me fait penser qu'à la messe, on a pourtant les yeux grands ouverts. La messe, c'est pour nous aider à la prière. On regarde l'autel, le prêtre, le corps du Christ. Et cette vue, j'avais compris que ça devait nous aider dans notre prière et donc dans notre spiritualité.
C'est vrai. Vous avez raison, parce que l'Eucharistie, c'est une réunion, c'est une assemblée. Et donc, quand on est en groupe, on se regarde les uns les autres. Mais moi qui suis prêtre, et moi qui suis de l'autre côté, je suis en face de vous pendant la célébration de l'Eucharistie. Je suis frappé par le nombre de gens qui ferment les yeux pendant la messe elle-même, et notamment après la communion. Quand ils reviennent à leur place, les gens ferment les yeux. Pas toujours, mais le plus souvent. Comme si, pour entrer en relation plus explicite avec le Christ qui est en eux, ils avaient besoin de fermer les yeux pour être plus facilement avec lui. Mais ce qui est vrai dans la Bible, si vous voulez, c'est que ce que disait Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, c'est une réalité profondément biblique. Si vous voulez. Dieu, c'est quand même pour des croyants, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, qu'on soit musulman ou autre, on aimerait bien voir Dieu. Eh bien, justement, Dieu, on ne peut pas le voir. C'est ça la grande différence entre le Dieu des Juifs et des chrétiens et les idoles. Les dieux égyptiens, la religion égyptienne était une magnifique religion, un culte de la mort extraordinaire, un sens de l'après-vie, un sens de l'immortalité, etc. La religion égyptienne, vous aviez des dieux qu'on voyait, en forme d'animaux ou autre. Tandis que dans la Bible, Moïse, on voit bien, Moïse dans le livre de l'Exode, il y a un moment où il demande à Dieu, il dit « Je voudrais te voir, je t'en prie, laisse-moi contempler ta gloire. » Le Seigneur dit « Je vais passer devant toi avec toute ma splendeur et je proclamerai devant toi mon nom qui est le Seigneur. Je fais grâce à qui je veux, je montre ma tendresse à qui je veux. » Il dit encore « Tu ne pourras pas voir mon visage. Car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie, le Seigneur dit enfin. Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher et je t'abriterai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras de dos. Mais mon visage, personne ne peut le voir. Quelque chose qui est extrêmement important dans la révélation chrétienne. Dieu, qui est la raison d'être de toute chose, est invisible. L'auteur des choses visibles est invisible. L'expérience de l'absolu est une expérience intérieure et elle ne saurait être visible.
Justement, le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples se retournent à Emmaüs, croient Jésus, voient cet homme et ne reconnaissent pas Jésus. En fait, ils s'aperçoivent que c'est Jésus quand il est parti, en fait. Ils n'ont pas eu besoin de la vue pour pouvoir reconnaître Jésus ou pour voir que Jésus était avec eux.
Non, justement, l'exemple que vous donnez, que c'est par sa parole qu'ils l'ont reconnu. Hein, ils marchent sur le chemin, un voyageur inconnu se joint à eux. Commence à parler, qu'est-ce que vous faites là? Ah bon, mais toi et toi, tu qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Tu sais pas? Alors il lui parle de Jésus, Jésus fait l'innocent, il ne sait pas reconnaître. Et quand ils lui disent, bah nous on est vachement déçus parce que Jésus de Nazareth, on avait cru que c'était le Christ, quoi. Et puis bon, on l'a mis à mort, il est mort, puis c'est terminé. Alors Jésus leur dit, mais vous ne connaissez pas les Écritures? Pourtant les Écritures avaient annoncé ce qui s'est passé, que le Messie serait mis à mort, etc., mais qu'il ne resterait pas dans la mort. Et il continue à leur expliquer les Écritures, et puis ils arrivent à l'auberge, et puis il est invité à dîner avec eux. Et c'est au moment où il prend le pain pour le partager et le donner qu'ils se disent « Mais c'est lui !» Et il a déjà disparu. Mais c'est à sa parole, à sa façon de lire l'Écriture qu'ils l'ont reconnu. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant pendant qu'il nous commentait les Écritures? Voyez, on ne l'a pas reconnu. Et je crois que c'est très important. Dieu est parmi nous incognito. Ça, c'est très important dans le christianisme. Jésus a dit, si vous voulez me rencontrer, allez dans les prisons voir les gens, allez dans les hôpitaux rendre visite aux malades. Jésus se cache parmi nous et entre nous, on ne le reconnaît pas. On est invité à reconnaître notre Dieu, notre Seigneur, en tout homme, en toute femme, même chez le pire des salopards, parce que dans les prisons, il n'y a pas que des cas d'erreurs judiciaires, et Jésus s'identifie à eux. Mais alors, il est méconnaissable, vous voyez, mais on ne peut pas le voir en tant que Seigneur. On ne peut le voir qu'à travers l'humanité, aujourd'hui.
Et donc, ça veut dire, pour accéder à une forme de méditation et de spiritualité et de prière, la vue n'est quand même pas première, n'est pas essentielle.
Oui, c'est plutôt, oui, c'est la parole, c'est l'oreille. Oui, la vue n'est pas essentielle. D'ailleurs, vous savez, le mot mystique, parce que la vie spirituelle, c'est la vie mystique. Le mystique, c'est pour tout le monde. Hein. Il ne faut pas croire que c'est réservé à une élite. Mais le mot mystique lui-même, ça vient d'un mot grec, miein, le verbe grec miein, qui signifie fermer. Fermer les yeux, fermer la bouche. Le mystique, dans l'antiquité païenne, avant le christianisme, le mystique, celui qui se faisait initier, par exemple, au mystère d'Éleusis, l'initié entrait les yeux bandés dans le sanctuaire. Et l'initiation se faisait de façon nocturne. Et on ne voyait rien, ou pas grand-chose. Et donc l'initié, le mystikos, c'est quelqu'un qui doit d'abord apprendre à fermer les yeux, à écouter et intérioriser. Mais dans la spiritualité chrétienne, on voit ça très bien, par exemple, chez Saint Jean de la Croix, on a écrit un poème célèbre qui s'appelle « La nuit obscure ». Et il explique que si on veut vraiment faire l'expérience profonde de l'unité intérieure et de l'union avec Dieu, ça se fait de nuit. Il faut commencer par fermer les yeux. La nuit, c'est la nuit que se passent les choses sérieuses. Et donc, il écrit un poème. C'est le poème de l'âme qui s'échappe pour aller retrouver son amant, qui est Dieu ou le Christ, si vous voulez. Par une nuit obscure, ardente d'un amour plein d'angoisse, ô l'heureuse fortune, je sortis sans être vu, ma maison étant désormais tranquille. À l'obscur, et en assurance, par l'échelle secrète, déguisée, ô l'heureuse fortune, à l'obscur et en cachette, ma maison étant désormais tranquille. Au sein de la nuit bénie, en secret, car nul ne me voyait, ni moi je ne voyais rien, sans autre lueur ni guide, hors celle qui brûlait en mon cœur. Et celle-ci me guidait, plus sûre que celle du midi, où celui-là m'attendait, que je connaissais déjà, sans que nul en ce lieu ne parût. Ô nuit, toi qui m'as guidé, ô nuit, plus que l'aurore aimable, ô nuit, toi qui as uni l'aimé avec son aimé, l'aimé en son aimé transformé. C'est la rencontre des amants qui se fait dans la nuit. C'est une image, mais c'est vrai que ça se fait dans la nuit de la foi, c'est-à-dire que cette rencontre de l'âme avec Dieu, elle doit se préparer par un long itinéraire de purification, vous l'imaginez bien, et qui est comparée à une nuit. Il faut que les sens soient purifiés de façon à ce que rien de ce qui n'est pas Dieu ne nous empêche de nous unir à lui. La foi, c'est de l'ordre de la nuit, c'est marcher quand on ne sait pas où on va, par où on passera, combien de temps durera le voyage, on ne voit rien, mais on avance. À l'aveugle, guidé par Dieu. Alors, Jean de la Croix développe ce thème de la rencontre de Dieu qui ne peut se faire que la nuit, parce que c'est une rencontre amoureuse, mais au terme de cet itinéraire, quand l'âme est suffisamment unifiée, pacifiée, et lorsqu'elle vit une relation à peu près permanente avec Dieu, à ce moment-là, dit saint Jean de la Croix, l'usage de ses sens lui est rendu et elle voit le monde, et elle l'entend, et elle le goûte, et elle le touche autrement, non plus de façon égoïste, matérialiste, intéressée. Mais désormais, tout lui parle de Dieu. Le regard qu'elle pose sur le monde et sur les êtres n'est plus un regard possessif, un regard instrumentalisant, mais un regard qui laisse les choses être ce qu'elles sont et qui laisse les autres être ce qu'ils sont. Elle peut entrer en relation avec les êtres, avec les personnes et les choses de façon plus gratuite, plus libre, plus belle.
Moi, je comprends dans ce que vous dites, qu'en fait, il est important de rentrer dans la prière déjà en fermant les yeux, en ayant une espèce de préparation, en se concentrant, et donc que fermer les yeux est le moyen de rentrer par la prière pour pouvoir mieux rencontrer le Christ, et après sortir de cette prière pour après voir le monde différemment.
Oui, tout à fait. La première chose à faire, c'est d'arrêter cette espèce de télévision intérieure qui fonctionne en nous en permanence dès que nous nous posons quelque part. Ont un tas d'images, de bruits, etc., qui tournent. Il faut laisser s'arrêter, se calmer ce flux intérieur. Là, on peut commencer à écouter le silence, parce que c'est dans le silence que les choses essentielles se disent, sans mots, au-delà des mots.
Très bien. Merci beaucoup pour cette approche de la vue en lien avec la spiritualité. Est-ce que vous pouvez déjà nous dévoiler le thème de la prochaine fois ?
Nous pourrions faire sur la parole, sur l'écoute.